Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, en cette fin du mois de janvier, les inspirations ne manquent pas pour satisfaire notre curiosité, pas encore totalement frigorifiée. Cette semaine, dans notre petite fabrique du bonheur à partager, nous vous proposons de parler de la musique de la charmante Clo, avec Guillaume, toujours bien accompagné. Gaël nous entraîne en Italie, dans un Pompéi revisité à la sucrière. Et bien entendu, une lecture de Thomas. Il ne fera entendre les mots de Fabien Drouet dans Soirée solo. On ne change pas une formule qu'on aime, nous terminons avec les Gédéons pour finir en beauté. Nous débutons avec toi, Guillaume, et ton invité, Clo. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Clo.
Bonjour.
Alors on va peut-être te présenter parce que tu es une très jeune artiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors quel est ton parcours, où en es-tu? Je te cache pas que évidemment tu fais partie du labo du conservatoire.
Oui,
on salue Francis bien sûr.
Et
pourtant pour une fois c'est pas lui qui m'a indiqué ton nom, donc voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire un petit peu d'où tu viens?
Bien sûr, moi je serais curieuse de savoir comment vous avez entendu parler de moi. Moi je m'appelle Clo. J'ai grandi dans la région Isère, mais très proche de Lyon. Et j'ai toujours fait de la musique du plus loin que je me souvienne. J'ai eu un groupe à l'époque où je faisais partie de l'orchestre, si on veut. On était 9, donc on était vraiment hyper nombreux et nombreuses. Et puis, de fil en aiguille, après des études et plein de choses, j'ai décidé de me lancer dans ce projet, qui est un projet pop française.
Pop française, et donc voilà. tu as sorti un premier EP qui date déjà un petit peu, et donc là, tu es en train de préparer d'autres titres. Il y a un titre qui vient sortir, enfin, qui est assez récent, qui s'appelle Les Fleurs,
tout
d'accord. Voilà, donc tu chantes en français, et donc, d'où vient ton inspiration finalement, là? Tu dis, tu es de l'Isère, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont marqué dans la région? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de chansons, à mon avis, assez personnelles finalement.
Tout à fait, hein, en fait.
Parce que Cœur Brisé, l'EP commence par Cœur Brisé, alors c'est quand même un petit peu triste. Mais sauvé par la nuit à la fin.
Voilà, exactement. L'EP s'appelle À l'aube, donc c'est à l'aube de mon projet, à l'aube de ma vie, puisque je suis dans la vingtaine, on va dire, donc j'ai l'impression d'avoir encore du temps devant moi, et je l'espère en tout cas. Donc ce projet, il a bientôt 2 ans, enfin il va avoir 2 ans cette année, et en réalité il a plus 5 ans, je dirais, puisque j'ai commencé à l'écrire vraiment longtemps avant de le sortir. Comme beaucoup d'artistes émergents et émergentes, ça met du temps, ça prend du temps de trouver une équipe, de travailler ces morceaux. Et puis plus récemment, là, j'ai sorti Les Fleurs. Ouais, cette année, j'ai sorti 3 morceaux qui tendent vers une esthétique un peu pop-rock. J'aime bien cette expression, même si on reste quand même dans quelque chose de très pop. Et je parle de ma vie, principalement, de mes histoires et de choses qui m'animent, de questionnements qui peuvent m'animer.
Alors, comme on le disait, tu es soutenu par le labo du conservatoire. Alors, qu'est-ce que cette structure t'apporte? Comment ça fonctionne? Comment on en arrive à postuler et à être prise au labo du conservatoire?
Alors, après une bonne année de réflexion et d'amis musiciens et musiciennes qui me disent « Mais Clo, tu devrais t'inscrire, ça pourrait vraiment t'accompagner à fond et tout. » Donc, j'ai passé le cap de l'audition et j'ai été agréablement surprise d'être sélectionnée cette année. Cette année, moi, je suis accompagnée par Julien, qui est le binôme de Francis. Et on travaille le live et principalement ce que j'ai envie d'apporter sur scène. Il y a aussi tout ce qui est atelier annexe, donc on a des ateliers de MAO, on travaille en fait tout l'environnement d'un artiste émergent à notre époque et à notre niveau. Et ben on le travaille avec eux et c'est vraiment un super riche quoi. On a plein d'enseignements et
d'accord. Et donc après toi tu envisages quoi? Tu envisages peut-être un deuxième EP puisque là tu disais que cette année tu avais sorti des titres épars.
Exactement.
Donc un enregistrement prochain.
L'idée c'est de rassembler les titres qui sont sortis de façon éparse comme vous dites cette année, l'année passée plutôt. Dans un EP qui sortira dernier trimestre 2025. Je n'ai pas de date précise encore parce qu'en fait j'ai envie aussi de pouvoir proposer d'autres singles d'ici là et de continuer de diffuser un peu de façon j'allais dire sporadique, mais de façon un petit peu plus
régulière,
pour
que on s'habitue un petit peu à ton
fait.
Univers,
exactement.
D'accord. Bon, on va peut-être écouter Les Fleurs alors, hein, on va
avec
s'offrir
plaisir.
Les Fleurs.
Mon cœur en verre, une vie de sans teint.
des fleurs, de clos. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça parle de fleurs, mais sur la pochette, il y a une pomme avec une flèche dedans.
Bah oui.
Alors, pourquoi cette pomme et pourquoi cette flèche ?
C'était un peu trop évident de mettre des fleurs sur un titre qui s'appelle Les Fleurs. J'avais envie de parler de ce que, du sujet, en fait, ouais. de la chanson, qui parle d'amour, plus précisément d'une histoire d'amour. Que je suis en train de vivre et que beaucoup de gens vivent en réalité. C'est une très belle histoire d'amour et je trouvais ça intéressant de mettre au centre sur la pochette l'amour à l'aveugle, de se jeter à corps perdu dans une histoire d'amour et de donner sa confiance à quelqu'un. C'est vraiment l'image de cette pochette.
D'accord, bah écoute, on te remercie et on salue Julien ce coup-ci. Merci
Salut.
Beaucoup à toi, Claude.
merci à vous.
Gaëlle, cette semaine, tu nous entraînes à Pompéi, ou plus exactement à la Sucrière, dans le quartier de la Confluence. Nous t'écoutons.
Pompéi fascine toujours autant, comme le confirme un récent ouvrage intitulé « Pompéi, la magie des ruines », livre du directeur du site archéologique de Pompéi, Gabriel Zutrigel. L'exposition « Pompéi, cité immortelle » témoigne de cette magie. Pourquoi cette cité consumée par la cendre du Vésuve en l'an 79 nous magnétise-t-elle toujours autant ? Sans doute parce que notre présent reste intimement lié au passé, si antique soit-il. En mêlant passé et présent, les ruines captivent. Pompéi demeure auréolée de mystères et de secrets. Sur les 66 hectares du site, un tiers reste encore sous les cendres. L'archéologie dialogue avec l'actualité. Une campagne de fouilles a d'ailleurs repris en 2023. Qui étaient les Pompéiens ? Comment vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Dans quelle maison habitaient-ils ? L'exposition « Pompéi, cité immortelle » répond à ces questions à travers plusieurs parcours. L'un, muséal, comporte plusieurs œuvres prêtées par le Musée archéologique national de Naples et le Musée Galilée de Florence. En exhumant des objets de l'envoûtante Pompéi, nous sommes face à une véritable machine à remonter le temps qui permet de reconstruire des histoires. Les autres parcours de l'exposition sont scientifiques et pédagogiques, ponctués par des vidéos animations immersives. Dans l'approche pédagogique, des frises et cartes géographiques permettent de vous situer dans l'espace-temps. Différents profils de Pompéiens sont présentés. Un négociant en vin et huile d'olive, un duum vir, un haut magistrat, ou encore un esclave architecte. En l'an 79, avant l'éruption du Vésuve, que l'exposition évoque dans une reconstitution vidéo, Pompéi était une ville en chantier. De nombreuses habitations avaient été détruites par le tremblement de terre de l'an 62, tragédie qui fait l'objet d'une reconstitution présente dans l'exposition, dans un bas-relief. D'autres traces de Pompéi en reconstruction ont été découvertes, échafaudages, grues, offrant la possibilité de mieux appréhender le travail des architectes, artisans et techniciens. Architecture également abordée dans l'exposition avec une vaste maquette d'une villa rustique ayant appartenu à un banquier. Pompéi émerveille. Chaque découverte constitue la pièce d'un immense puzzle à reconstituer afin de mieux connaître et comprendre la vie quotidienne de l'époque. Aussi, Pompéi, cité immortelle, évoque l'eau avec un impluvium, bassin recueillant l'eau de puits, ainsi que le chauffage avec un brasero, aussi bien utilisé pour les banquets que pour la salle de bain. Également abordée, la faune dans des fresques représentant jusqu'à la faune exotique, aveu que les Pompéiens connaissaient les éléphants ou les crocodiles. Autre item, les différentes cultures, qu'elles soient textiles, le chanvre et le lin, ou céréalières, fruitières et la vigne, sont abordées. Vin, par ailleurs, souvent de basse qualité, coupé à l'eau et stabilisé par du citron et de l'eau de mer. De plus, le vin pompéien regorgeait d'aromates pour estomper le goût laissé par le mauvais nettoyage des amphores. Une coque de bateau présentée en coupe indique comment les amphores de transport étaient disposées et calées par des branches de genévrier. Des fresques consacrent le vin avec des représentations de Dionysos, dieu de la vigne, reconnaissable à ses attributs, dont le cantare, un vase pour boire du vin. Plusieurs fresques comportent des représentations mythologiques. Les élites souhaitaient afficher leur niveau d'éducation en possédant de telles iconographies. Mythologie également déployée dans des sculptures. Cas du marbre blanc d'Artémis en train de chasser. Sculpture prêtée par le Musée archéologique national de Naples. Et que mangeaient les Pompéiens et où ? Une pièce consacrée à l'ancêtre du snack bar avec la reconstitution d'un thermopolium, espace dans lequel on consommait debout des plats conservés dans des jarres encastrées dans le comptoir. D'autres fresques représentant des poules et des oies attestent du goût prononcé qu'avaient les Pompéiens pour la consommation d'œufs. Divers objets et ustensiles confirment d'autres plaisirs gastronomiques. Noix, noisettes, crustacés, mais aussi sangliers et même des loirs. Le Musée archéologique national de Naples a également prêté un pain de l'an 79, présenté dans sa forme typique, soit une miche ronde prédivisée en 8 parts. Sachez que lors de fouilles récentes, on a même cru identifier une pizza. Énigme que certains ont tranché, soulignant qu'il s'agissait sans doute plus d'une focaccia, un pain plat courant dans la Rome antique. Enfin, l'exposition montre combien les cendres recouvrant les corps asphyxiés des Pompéiens formaient comme une gangue autour des cadavres, une reconstitution en résine de corps figés figure en fin de parcours. L'exposition Pompéi, cité immortelle, est programmée à la Sucrière jusqu'au 27 juillet 2025. Plus d'informations sur expo-pompéi.com.
Merci Yaël. Alors une petite déception pour ma part, tu parlais des plaisirs culinaires, il y a d'autres plaisirs qui manquent dans cette exposition Pompéi, c'est celle du quartier du Lupanar. Aucune évocation du Lupanar, est-ce qu'à Lyon on serait un petit peu prude? Je ne sais pas, mais en tout cas il faut aller voir cette exposition, Pompéi donc, à la Sucrière, cité immortelle.
Thomas, la lecture cette semaine est consacrée à Fabien Drouet dans le recueil de microfiction poétique Soirée Solo. On en parle juste après.
Le café servi au bar de ma rue, le bar PMU La Calanque, surtout le café allongé parce qu'en plus d'être mauvais, il est long à boire, est clairement dégueulasse. Je l'adore sans aller non plus jusqu'à lui vouer un culte ou un autre. Disons que je l'aime bien. La table sur laquelle je le bois est en plastique. Les chaises aussi sont en plastique. Pour la plupart, elles sont vertes et le café est dégueulasse et je l'aime. Oui, c'est une sorte d'amour. De ces amours qui vous rappellent d'autres amours, de ces sensations qui vous rappellent que vous êtes encore capable de sensations, que vous les avez sur vous, ces sensations disponibles et que vous pouvez d'une certaine façon les revivre à foison, mais uniquement par l'entremise d'un goût et d'une odeur qui leur ouvre la porte. Vous connaissiez la Madeleine de Proust ? Voici maintenant le café dégueu du bar PMU La Calanque. Il y a aussi que, certains matins, ce café dégueu épouse à merveille mon état psychique et sait, par sa quasi-imbuvabilité et sa robuste vigueur, repousser plus loin les limites de ma nausée. Disons que, tout comme ma capuche, quand j'ai besoin d'un refuge, il me va bien. Un jour, j'ai voulu en parler aux gens qui buvaient un café à la terrasse de La Calanque, leur demander leur avis. Et avant même que je termine de formuler ma question, vous trouverez le café... Ils avaient tous répondu que le café était abominable. Et encore, vous n'avez pas goûté la bière, avait déclaré un homme qui, juste après avoir articulé ces mots, était parti en commander une autre. Ah ah, et le vin blanc, je vous en parle pas. Les prix ne sont pas moins élevés ici qu'ailleurs. Si, bien sûr, ils sont moins élevés qu'à l'hôtel de ma rue, devant lequel il y a deux lions en faux marbre. Mais les prix ici ne sont pas moins élevés que dans d'autres bars. Alors, pourquoi venir ici? C'est un peu comme si, ici, nous étions finalement là où nous devions être, cernés, vaseux, seuls, ensemble, ensemble et seuls, chacun ici et chez soi.
C'est très beau, j'aime beaucoup ces espèces d'instants de vie comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Fabien Drouet?
Ouais, Fabien, c'est un chic poète, je l'aime beaucoup. Il a publié déjà pas mal de bouquins. Son premier, ça devait être aux éditions des Étacs. Ensuite, un deuxième à la Boucherie littéraire qui s'appelait « Je sous-signé », qui parodiait les autorisations de sortie qu'on signait nous-mêmes pendant une période révolue. Et un superbe bouquin que je recommande chaudement aux éditions des Lisières, biographique en réalité, sur sa vie avec sa grand-mère, qui s'appelle « Je serai jamais morte ». C'est merveilleux et le même humour pour travailler le quotidien.
Alors c'est quelqu'un qui est musicien aussi, j'ai trouvé ça, guitariste et bassiste, ouais. Hein, donc il a plusieurs vies. ce garçon. En tout cas, on a très envie de lire ces petits passages, en fait, de ces autofictions qui ont l'air tout à fait incroyables.
Voilà, et donc je conseille aux Lyonnais de guetter ces actualités parce qu'il fait souvent des soirées dans des bars. Là, il y en a prochainement à Villeurbanne. Voilà, il fait beaucoup de petits événements discrets dans les lieux qui vont bien.
Merci beaucoup, Thomas. Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos incontournables Gédéon Gaël.
Mon Gédéon de la semaine est le roman graphique Racine de Lou Luby, paru aux éditions Delcourt. Un passionnant, touchant et souvent humoristique récit-enquête sur les cheveux frisés et crépus, signé par la réunionnaise de 35 ans, Lou Luby. Racine raconte l'histoire d'une petite fille, Rose, qui a les cheveux crépus et rêve de les avoir lisses. Au-delà d'une enquête capillaire très documentée, avec des chiffres, exemple 81% des enfants afro-américains aimeraient avoir les cheveux lisses, et des schémas pédagogiques dans lesquels vous apprendrez, entre autres, que les cheveux crépus sont, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les cheveux les plus fins, Lou Luby interroge le poids des normes sociales et les discriminations. Le titre « Racine » au pluriel fait référence aux cheveux, certes, mais aussi aux origines, à l'identité. Le roman graphique suit d'ailleurs la reconnexion de Rose à son métissage et aux cheveux « nappy », contraction de « naturel » et « happy ». Roman graphique recommandé entre « enquête » et « quête de soi-même », tout récemment récompensé du 31e prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage. Je rappelle les références, Racine de Lou Luby aux éditions Delcourt.
Merci beaucoup, ça a l'air vraiment superbe. Tu l'as fait circuler et effectivement, on a bien envie de te la piquer. Rien que la couverture est splendide. Guillaume.
Alors moi, mon Gédéon de la semaine, c'est un album qui sortira dans un petit moment, le 21 mars, d'une artiste lyonnaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Days. Claire Days, ça sera son deuxième album après un premier EP, donc ça sera son deuxième album qui s'intitulera I Remember Not Something. Et vraiment, c'est un album magnifique. Je pense que elle va connaître enfin le succès qu'elle mérite, même si elle était déjà connue ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Claire Days, c'est vraiment merveilleux. C'est de la folk en anglais et en français. Et oui, on peut chanter du folk en français aussi. Et voilà. Et je vous propose d'écouter un titre qui est déjà sorti. C'est son dernier titre, son dernier clip. Le clip est magnifique. Il s'intitule Archaeology.
I often see you in the crowd when I'm biking home at night. A familiar silhouette, the back of your neck. It's not exactly you. And when they tilt their heads, it's the corner of their mouth, their crooked smile. Can you believe this? It's amazing how I kept all of these fragments of your body. Can you believe this? Biking in my city is archaeology, and I'm picking the pieces. Picking the pieces. It doesn't have to be you. It's a trick of my mind. Only a shadow of you. An untraceable light. I only see you when you're not there. I only see you in the traces. The twitch in your muscle. Crane your neck. Can you believe this? It's amazing how, after all those years, pieces come together and traces disappear. But I'm biking in my city as an archaeologist, and I'm picking the pieces. Can you believe this? walking home at night, the familiar silhouette, the back of your neck, it's not exactly you. And when they tilt their heads, it's the corner of their mouths, their crooked smile.
Archéologie de Claire Days qui sort sur un album le 21 mars. Cet album s'intitule I Remember Something. C'est à mon avis un des grands disques déjà de l'année 2025 et on la fera venir à ce micro très prochainement pour un entretien. Je l'espère.
Merci beaucoup Guillaume. On espère en tout cas et on mettra le clip aussi bien sûr sur la page de notre émission. Pour ma part, ça sera théâtre. Théâtre au TNP. Et oui, figurez-vous que le Théâtre National Populaire a toujours une proposition magnifique, une programmation splendide. Et évidemment, ce début d'année, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Moi, je vous propose Sensuel, texte et mise en scène par Jean-Christophe Folly. C'est du mardi 28 janvier au vendredi 7 février à 20h dans la salle Jean Bouise. C'est l'histoire d'une femme de 60 ans prénommée Sensuel. Un jour, au comptoir d'un bar, un homme lui dit qu'elle n'est plus Sensuelle. Elle le tue. De retour chez elle, elle reçoit la visite de sa fille qui vient lui présenter son petit ami. La soirée défile et à mesure que Sensuel ouvre des bouteilles de Sancerre, les masques tombent et les langues se délient. Le huis clos se resserre, tôt ou tard la police viendra embarquer la criminelle. Mais le polar n'est qu'un prétexte. Sensuel orchestre avant tout la rencontre entre trois personnes que tout oppose, à part une incapacité à être soi. La distribution est splendide avec William Edimo, Emmanuel Ramou et Juliette Savary. Je vous recommande ce spectacle hors du commun, tout à fait particulière, dans une des petites salles du TNP, hein, c'est pas dans la grande salle, et c'est bien qu'on soit tout près de ces personnages pour assister à cette joute verbale absolument incroyable. Je vous rappelle les références sensuelles au TNP, Théâtre National Populaire de Villeurbanne, du 28 janvier au vendredi 7 février. Merci de nous écouter, restez curieux, à la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr. Thank you.